7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins. Amoureuses, amicales, professionnelles, nos vies sont ponctuées d'une multitude de rencontres. Si certaines sont anodines, furtives ou sans lendemain, d'autres au contraire nous bousculent, nous révèlent à nous-mêmes, nous font redécouvrir le monde ou changent le cours de notre vie. En ces temps de repli sur soi, pandémie oblige, le besoin de rencontrer l'autre demeure par message ou écran interposé. Alors que valent ces échanges en ligne? Est-ce vraiment vivre que vivre sans rencontre? Et qu'est-ce qu'une vraie rencontre? Pourquoi est-on attiré par quelqu'un? Comment se préparer à la rencontre, être disponible à la surprise, à l'inattendu, à l'autre? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Charles Pépin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes philosophe, écrivain, auteur de BD, conférencier. Et après Les vertus de l'échec et La confiance en soi, deux essais traduits dans une vingtaine de langues, vous publiez aujourd'hui La rencontre, une philosophie chez Alary Éditions. En ligne avec nous, Pascal Lardelier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sociologue et professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne à Dijon. Vos recherches portent notamment sur la rencontre amoureuse en ligne, la théâtralité des rapports sociaux et les interactions verbales et non-verbales. Tout à l'heure, nous joindrons Claire-Lise Gaillard, historienne attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Paris. Elle termine une thèse sur le marché de la rencontre du 19e au 20e siècle et notamment sur l'histoire des agences et annonces matrimoniales. Si vous avez des questions pour nos invités ou si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Charles Pépin, beaucoup de philosophes, de Buber à Hegel, en passant par Sartre, Alain Badiou ou Lévinas, se sont intéressés à cette problématique de la rencontre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher à votre tour sur le sujet?
Alors, c'est justement qu'ils se sont intéressés à la question de l'autre, de l'altérité, de la découverte de l'autre, de la responsabilité à l'égard de l'autre, mais sans vraiment appeler ça rencontre. Et donc j'ai décidé de synthétiser tout ça et d'aller plus loin pour montrer qu'en fait la vraie vie, c'est une vie de rencontre de ce qui n'est pas soi. Avec une étrange énigme qui est au cœur de mon travail, qui est que nous les humains, à la différence des mammifères les plus évolués, et même à la différence des dieux, si tant est que les dieux existent, nous sommes les seuls à devoir sortir de nous-mêmes, rencontrer ce qui n'est pas nous pour espérer devenir nous-mêmes. Comme si finalement, notre vérité, il fallait aller la chercher hors de soi, c'est-à-dire en rencontrant des autres, mais aussi des autres cultures, des paysages, des livres, des idées, et en rompant avec ses habitudes, avec ses certitudes. Eh bien, une vie sans rencontre n'est pas une vie vraiment humaine.
Alors, à quoi reconnaît-on ce que vous appelez une vraie rencontre? Est-ce qu'il y a des critères incontournables ou vraiment évidents?
Alors oui, des critères qui distinguent la vraie rencontre du simple croisement. Chacun se souvient d'avoir déjà dit à quelqu'un « pour s'en débarrasser, je suis très heureux de vous avoir rencontré ». Notamment le genre d'obligation professionnelle où on perd son temps, on n'en peut plus. Et on dit ça alors que précisément on n'a rencontré personne. Alors le premier signe de la vraie rencontre, c'est quand je suis troublé dans mon identité, quand je suis un petit peu dérangé, ça peut être un peu gênant, quand quelque chose m'attire, je ne sais pas quoi. Ça, c'est des troubles, c'est des signes qui indiquent que la rencontre est en train de se faire. Je suis curieux à l'égard du monde de l'autre et je sens un mouvement qui fait que je me désintéresse un peu de moi-même, ça fait du bien, et qu'enfin, je m'intéresse à autre chose que moi. Et puis, il y a des signes d'après, qui sont les signes plus vrais, plus objectifs, qui sont les signes non pas que la rencontre est en train d'avoir lieu, parce que ceux-là que je viens d'évoquer pourraient être trompeurs, mais les signes que la rencontre a vraiment eu lieu. Et là, c'est clair. C'est que enfin, je vois le monde autrement. Je vois le monde avec des yeux qui ne sont plus les miens. Ou alors, j'ai changé, tout simplement. J'ai d'autres façons de percevoir, de ressentir, de penser. Je me suis ouvert à d'autres parts de moi-même. Et puis, il y a un autre critère que je trouve très important, c'est que j'ai une responsabilité nouvelle. Parce que je t'ai rencontré, je suis responsable de toi. Et c'est ce que dit très bien Lévinas avec sa philosophie du visage. Une fois que j'ai rencontré quelqu'un, je ne peux plus faire comme si je ne l'avais pas rencontré. Son sort dépend de moi. Et ça, c'est la différence entre une vraie rencontre et un simple croisement.
Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un après et un avant la rencontre?
pour que s'il y a eu rencontre, oui, évidemment. Et alors, je vois votre petite inquiétude dans les yeux, malgré le masque, et je devine celle des auditeurs qui se disent « Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un et puis j'ai pas changé, je suis le même ». Eh bien non, vous n'avez rencontré personne. Vous avez fait un bout de chemin parallèle avec quelqu'un. Peut-être que vous avez eu du plaisir, des bons moments. Mais la vraie rencontre, c'est pas ça. C'est quelque chose qui ouvre le champ, qui ouvre la focale, qui fait que je ne perçois plus le monde pareil, que je vois plus les films de la même façon, que j'écoute plus des chansons de la même façon, que j'écoute plus le président de la même façon. Parce que je suis décentré. J'adore ce concept de décentrement. C'est pour ça que mon livre porte pour titre « La rencontre, une philosophie ». Ce n'est pas simplement une méthode. Il y a une philosophie de la vie. C'est-à-dire, au lieu d'être centré, d'être un sujet auto-centré, auto-défini, accroché à son identité, une vraie vie de rencontre est une vie de décentrement, d'excentrement. Je ne suis plus au cœur de ma propre vie. Il y a toi. Et tu es aussi important que moi. Toi, mon ami, toi, mon amour, toi, mon collaborateur, toi, mon partenaire. Tu as changé ma vie. Et c'est ça qui est intéressant. Autrement, on vit sur des rails identitaires jusqu'à la mort.
Pascal Lardelier, vous êtes d'accord avec Charles Pépin sur ces critères qui permettent de reconnaître une vraie rencontre ?
Alors, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que dans un premier temps, bien évidemment, il faut sortir du solipsisme, c'est-à-dire d'une espèce d'auto-centration de l'individu sur lui-même, et l'individu au monde, je parle moins en sociologue que mon collègue, mais l'individu au monde est un individu qui est avec, qui est toujours avec, qui se construit, son identité, ses expériences, son parcours de vie, en miroir et en regard de l'autre. Donc ça, bien évidemment, c'est une évidence. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il est pas mal de cultures, notamment asiatiques, dans lesquelles l'identité est définie comme le lien à l'autre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me semble important à rappeler. Et puis, bien sûr, il y a rencontre et rencontre. Il y a la rencontre ordinaire, dans lesquelles nous nous révélons à l'autre, mais même sans y penser, dans la banalité de ce que nous sommes. Ce sont les gens que nous allons croiser au quotidien. Et puis, oui, parfois, eh bien, quelqu'un ou quelque chose va attirer notre regard. Et puis, il y a les rencontres, et je peux en parlant sociologue, qui naissent dans un contexte et qui ont des enjeux. Alors, ça va être les rencontres professionnelles, dont l'entretien de recrutement est, alors c'est un peu prosaïque ce que je dis, mais néanmoins, l'entretien de recrutement va être un petit peu le parangon. C'est-à-dire que là, on va rencontrer quelqu'un et on va être une espèce de matrice interprétative pour l'autre. Alors, il y a tout ce qu'on va capter de l'autre et la rencontre, j'y reviendrai longuement, et je pense que Denis Papin aussi, c'est aussi un ancrage sensible. Oui, excusez-moi, oui.
Je suis pour l'identité multiple, donc ça me va très bien de m'appeler Charles, Denis, Pépin, Papin. Tant que c'est pas Pépin, ça me va.
Le Charles, le Denis en question, il est sa statue est dans le CNAM à Paris et c'est un inventeur célèbre.
Si ça me plaît beaucoup.
Voilà. Bon, voilà. Et donc il y a le contexte de la rencontre et puis les enjeux de la rencontre et puis de ce dont vous nous parliez à l'instant, bien évidemment, et je l'ai étudié en étudiant à travers 3 livres sur 20 ans que j'ai écrit sur la rencontre amoureuse en ligne, il y a la rencontre véritablement épiphanique, donc il y a quelque chose d'existentiel et même de divin dans le fait que parfois on va rencontrer quelqu'un qui, comme vous le disiez très bien, va complètement changer notre vie. Et je finis juste par un petit témoignage parce que je parlais d'un sujet que je connais bien, la rencontre amoureuse en ligne. J'avais fait une émission de radio, il y a très longtemps, chez Laurent Ferrari d'ailleurs. Et donc, un couple avait témoigné au téléphone, ils avaient dit, on a échangé par Internet, on s'est écrit beaucoup de lettres. Vraiment, la greffe a pris, et on reparlera tout à l'heure des images et des imaginaires de la rencontre, des stéréotypes qui la précèdent et qui l'entourent. Et donc, ils se donnent rendez-vous, je me souviens, dans un musée à Montpellier, devant un tableau qu'ils adoraient tous les deux. Ils se retrouvent là, ils échangent un baiser fougueux et le jour même, ils vivent ensemble. Et ça, c'est Phèdre voyant apparaître le bel Hippolyte, c'est de la rencontre véritablement épiphanique qui est à la fois une expérience sensorielle intense sur le moment où on le vit et puis une expérience de vie qui fait que, comme vous le disiez, vivre, respirer ne sera plus jamais la même chose parce que c'est une pierre blanche vraiment à l'échelle de son existence véritablement. Voilà.
Charles Pépin.
Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, monsieur Lardelier, c'est qu'on comprend aussi que les grandes rencontres peuvent se préparer longtemps à l'avance,
oui.
En amont.
Oui.
Ce qui peut nous aider aujourd'hui quand on est confiné ou en couvre-feu. Parce que le cas que vous évoquez, ce sont un homme et une femme qui ont longtemps échangé à distance, qui ont appris à se dévoiler, à se découvrir, qui ont longtemps chatté, qui ont été sincères dans des échanges. et qui finalement ont découvert un goût commun, notamment dans ce tableau devant lequel ils vont se retrouver. Et ça, c'est un vrai conseil que j'ai envie de donner à tout le monde. Au lieu de vous plaindre que vous ne pouvez pas assez rencontrer autrui aujourd'hui parce qu'il y a la crise sanitaire, eh bien, essayez de rencontrer des œuvres d'art, parce que c'est comme dans l'exemple que vous évoquez, un jour, vous pourrez peut-être partager ce goût pour une œuvre d'art avec quelqu'un. Et dans mon livre, je prends l'exemple de Bowie et de Lou Reed pour montrer, par analogie avec ce que vous dites, que les grandes rencontres se préparent. Parce que finalement, Bowie, quand il a rencontré Lou Reed, ça ne se serait pas bien passé s'il n'avait pas écouté Lou Reed chanter pendant des années avant même de le rencontrer. Mais il y a plein de façons de préparer une rencontre. Je veux dire, une rencontre, c'est un présent qui ouvre un avenir, mais c'est souvent anticipé par un passé d'ouverture, de curiosité, d'éveil. Et bien sûr, j'apprécie beaucoup votre terme d'épiphanie. C'est-à-dire, il y a de la révélation parfois dans une rencontre. Et un autre exemple que je prends dans mon livre, qui confirme ce que vous dites, c'est la belle rencontre de Camus et de Maria Cazares, la comédienne.
Bien sûr, oui.
Et Camus, eh bien, il avait en lui une part solaire, une part de joie de vivre, mais elle était en sommeil. Et c'est la rencontre avec Maria Cazares qui lui a permis de révéler,
de se transformer.
Cette part est apparue, elle était cachée. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est que notre vérité, comme vous l'avez dit, par rapport aux cultures asiatiques, j'adore cette idée qu'on est défini non pas par ce qu'on a en soi, mais par les liens qu'on entretient avec les autres. Donc en fait, on est défini par ce qui est hors de soi. Et c'est ce que dit magnifiquement le poète René Char. C'est sur cette citation d'ailleurs que j'ai construit mon livre. Il dit « Il faut s'établir à l'extérieur de soi pour espérer se trouver et devenir soi ». L'expression est très troublante et elle renvoie, Monsieur Lardelier, ce que vous évoquiez avec certains Asiatiques, mais heureusement pour nous aussi, c'est que d'habitude, on sort de soi pour rencontrer, mais là c'est plus fort, on s'établit à l'extérieur de soi, c'est-à-dire dans une relation dans laquelle je vais m'inventer, me réinventer, qui va me permettre de bifurquer. Mais bien sûr, la condition de tout ça, et je crois qu'on va être d'accord, et que le sociologue et le philosophe vont bien s'entendre là-dessus, la condition de tout ça, c'est qu'on sorte des déterminismes, qu'on sorte des préjugés, des rails, et qu'on se rende disponible. Et alors moi, figurez-vous, monsieur Lardelier, que j'ai un peu lu vos travaux quand j'ai enquêté pour écrire mon livre sur la rencontre, parce que je sais que souvent, le philosophe, il a un défaut, c'est qu'il n'aborde pas assez la question sociale, au fond, et comment on peut avoir des déterminants sociaux qui vont, en fait, entraver la liberté. Et c'est vrai que je me suis dit que, et d'ailleurs, je l'ai observé autour de moi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui finalement ne sont pas capables de faire des belles rencontres parce qu'ils sont trop pris dans des critères sociaux, dans des attentes sociales, dans des carcans sociaux. Eh bien, le secret, c'est la disponibilité, c'est de se dire, voilà, peut-être que j'attendrai une personne qui socialement corresponde à ce profil, mais la vraie personne que je vais rencontrer, c'est celle qui ne correspond pas. C'est celle que je n'attendais pas. Il n'y a de vraies rencontres, je crois, que de l'inattendu.
On va partir au standard maintenant, retrouver Marie-Jeanne qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour.
Alors vous avez 30 ans et vous aviez envie de nous parler d'Engie. Qui est Engie? Je crois que c'est une rencontre qui a été très importante dans votre vie.
Oui, très très importante je dirais. Alors pour la petite histoire, Engie c'est la babysitter d'un de mes neveux. Ma première rencontre avec elle remonte à il y a un an et demi. Lors de mon séjour chez une cousine. Voilà.
Et alors, est-ce que vous avez eu un coup de foudre amical immédiatement ou est-ce que ça a pris un peu de temps?
Non, immédiatement, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est très, très réservé. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans son coin. Alors, moi, je faisais tout le temps le premier pas. Bonjour, comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Et après, au fur et à mesure, elle s'est ouverte. Et après, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui donnait vraiment beaucoup d'amour. Et lorsque je lui ai expliqué les petits bobos, elle était vraiment très riche en conseils, voilà.
Et est-ce que vous vous ressemblez? Est-ce que vous avez des points communs ou est-ce que vous êtes très différentes l'une de l'autre?
Ah oui, Engie, c'est carrément mon plus beau cadeau du ciel, je dirais. Voilà, lorsque les choses semblaient basculer autour de moi, c'est quelqu'un qui vraiment m'a aidé à renaître de mes cendres, voilà.
Ah, carrément, renaître de vos cendres.
Ah oui. Ah oui.
Charles Pépin.
Oui, ben merci pour ce beau témoignage. Je voudrais rebondir sur deux choses. D'abord, vous avez fait le premier pas. C'est vrai qu'une des conditions de la rencontre, c'est de faire le premier pas. Il y a, je dirais, trois grandes conditions. De l'action, de la disponibilité et de la vulnérabilité. Et puis surtout, vous avez dit qu'elle vous a fait renaître de vos cendres. Et c'est vrai que parfois, les grandes rencontres nous font renaître. Alors là, il y a une question philosophique qui est posée. Comment je peux renaître, au fond ? Je suis déjà né une fois. Et comment je peux avoir cette impression d'une renaissance ou d'être relancé dans mon existence ? Il y a une explication, qui est l'explication anthropologique, sur laquelle d'ailleurs je conclue mon livre sur la rencontre, qui est de dire que comme nous, les humains, nous sommes nés trop tôt, nous sommes des prématurés, nous sommes nés au bout de 9 mois, alors que d'après les embryologistes, il faudrait plutôt 18 à 20 mois pour que les cellules du fœtus arrivent à terme. Du coup, notre naissance est incomplète, elle est imparfaite, elle est inachevée. Et toute l'aventure de la culture, des rencontres, c'est précisément de renaître, en fait, ou de parachever cette naissance que la nature a en quelque sorte mal terminée. Bref, nous sommes des animaux ratés. Alors j'espère, madame, que vous avez quand même fait découvrir la chanson des Stones, hein, Angie, et j'espère que vous l'avez chantée ensemble.
Vous connaissez cette chanson, Marie-Jeanne ?
Non, du tout.
Ah, alors écoutez-la.
Vous allez adorer. Vous allez, à mon avis, elle a été écrite pour elle.
Merci beaucoup, Marie-Jeanne, de nous avoir appelés. Bonne journée à Ouaga. On part pour Douala, où nous attend Achille. Bonjour, Achille.
Bonjour, Chantal, et bonjour à tous les voisins et les voisines.
Alors, quelle est la rencontre amicale qui a beaucoup compté, qui compte beaucoup dans votre vie ?
Alors, cette rencontre, elle est faite en 2017. J'étais en troisième année à l'université. Alors, je suis arrivé un jour en retard au cours. Le professeur était en classe. Et lorsqu'il m'a permis d'entrer, la salle était presque bondée. Alors, il y a une amie, bon, en ce moment, on n'était pas encore amis. Elle m'a fait signe de m'asseoir à côté d'elle. Mais elle a remarqué que durant tout le cours, j'étais un peu perdu. J'avais le regard un peu hagard, absent. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'ai été d'abord frappé par cette attention-là avec moi, vu qu'on ne se connaissait pas du tout. Moi, sur le cours, je lui ai dit que je ne souhaitais pas en parler. Mais au fil des jours qui passaient, elle a remarqué que durant les cours, j'étais toujours absent. Alors un jour, j'ai décidé de me livrer à elle. Je lui ai expliqué que je traversais une période difficile sur le plan familial et personnel. Alors elle m'a réconforté avec des mots bienveillants qui m'ont fait du bien, qui m'ont donné du bon mon cœur. Et après, ce qui m'a encore le plus touché, c'était qu'à l'issue de la session normale, je n'avais validé aucun crédit. Alors, je suis prise comme ça, j'arrive un matin, mais sur un programme, elle me dit que bon, voilà le programme pour réviser, on va réviser ensemble, et tu vas valider toutes tes matières au rattrapage, ce qui avait été fait. Et durant toute l'année également, elle m'a beaucoup accompagnée psychologiquement.
Donc, elle vous a poussé, boosté dans vos études.
Oui. Et on était tellement fusionnels que beaucoup des amis croyaient qu'on avait une relation sentimentale, alors que ce n'était pas du tout le cas. On avait une relation exclusivement amicale et je dois dire que notre amitié a également changé mon rapport avec les filles parce qu'avant, nous, avec les amis, les potes, on se disait toujours qu'il ne peut pas avoir des relations amicales entre un garçon et une fille. Donc du coup, on se disait toujours que lorsqu'un garçon et une fille, c'est une relation amoureuse et tout. Mais je dois dire qu'elle m'a permis de briser ce tabou-là et d'améliorer ma relation avec les filles et de croire que on peut avoir une amie qui est sincère et avec laquelle on peut avoir les mêmes relations qu'on a, qu'on peut avoir avec un pote, un ami garçon. Donc, je dois dire que ça m'a beaucoup aidé en ce sens-là parce que cette année-là, j'étais au fond du trou, réellement.
Charles Pépin.
Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ça me fait penser à cette phrase d'Aristote. Je pense qu'elle va résonner pour vous. Aristote dit « Un ami, c'est quelqu'un qui te rend meilleur. » C'est-à-dire qui t'accompagne dans ton progrès et qui est l'occasion, en fait, de ce que Aristote appelle l'actualisation de la puissance. Alors, la puissance, c'est des qualités qui sont en vous, qui sont en friche. Et quand elles sont en acte, actualisées, elles se réalisent. C'est exactement ce qui s'est passé quand vous avez travaillé et réussi ce concours, cet examen. On voit aussi, d'ailleurs, si on s'arrête sur votre témoignage, que nous avons besoin des autres, au fond, que nous sommes dépendants des autres, mais en un noble sens. Souvent, on nous apprend qu'il faudrait être indépendant. Et on nous met dans le crâne des fausses valeurs, des fausses idéologies. Parce que si on vous dit tout le temps « soyez vous-même, ayez une identité fixe et soyez indépendant », ce n'est pas une très belle invitation à la rencontre. Si on vous dit en revanche « vous n'êtes pas vous-même, vous pouvez devenir quelqu'un de meilleur et vous êtes dépendant des autres, mais de cette dépendance, Vous pouvez faire l'aventure de votre liberté, alors vous voilà jeté dans les bras des autres. Enfin, évidemment, heureusement que vous comprenez qu'on peut être ami avec quelqu'un d'un sexe différent, parce que l'amitié n'a pas de frontières. Et ce qui est intéressant dans une rencontre, c'est de faire l'expérience d'un autre point de vue. Et quoi qu'on en dise, la différence des genres, même si ce n'est pas très à la mode de dire ça, c'est quand même une altérité, quand même. La différence des sexes, c'est quand même une altérité. On ne pourra pas nous retirer ça. Donc c'est vrai qu'une amitié avec quelqu'un d'un autre genre, c'est quelque chose de très, qui ouvre les yeux et qui permet comme ça de faire cette expérience de l'altérité dont je montre dans mon livre « La rencontre, une philosophie », quel est le signe principal que la rencontre a eu lieu.
Merci beaucoup Achille de nous avoir appelé. Bonne journée à Douala. On éprouve parfois une curieuse sensation en rencontrant un ou une inconnue, celle d'avoir trouvé l'âme sœur, qu'un lien de parenté presque nous unit. Cette énigme est au cœur de la chanson « Les mots bleus » de Christophe.
Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Rendent les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles.
Les mots bleus, Christophe sur RFI dans 7 milliards de voisins. On se penche aujourd'hui sur le mystère de la rencontre avec le philosophe Charles Pépin et le sociologue Pascal Lardelier. Charles Pépin, il n'y a plus d'horloge, plus de clocher, chante Christophe dans les mots bleus. Lors d'une vraie rencontre, le temps s'efface.
Alors le temps est quelque chose de très particulier dans une rencontre parce que déjà elle a lieu au présent, mais on se rendra compte plus tard que ce présent a été tellement dense qu'il a ouvert un avenir. Par exemple, on peut se souvenir d'avoir rencontré son professeur et que c'est devenu un ami parce que cette rencontre, elle a produit la possibilité d'un passé. Et on se rend compte aussi que cette rencontre au présent, souvent, elle a été, comme je disais tout à l'heure, préparée dans le passé par une forme d'attente, de désir, de projection, de curiosité. Donc on n'est surtout pas dans un pur présent. On pourrait se dire, oui, pour rencontrer quelqu'un, il faut être dans l'ici et le maintenant, toute cette tarte à la crème du présent de l'instant T. Ce n'est pas si vrai. Souvent, une belle rencontre me convoque avec tout mon passé et me fait exister légitimement avec tout mon passé, tout en ouvrant une perspective d'avenir. En revanche, ce que dit aussi très bien cette magnifique chanson, dont les paroles ont été écrites par Jean-Michel Jarre, « Les mots bleus » de Christophe, chantés aussi par Bachung, c'est qu'il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Ça veut dire que je suis capable de sortir de la hâte, de la précipitation. Et ça, souvent, ça nous empêche de rencontrer quelqu'un. On n'a pas le temps, on est trop pressé, et on se dit qu'on est en retard, et on ne voit pas que quelqu'un est là, prêt à engager la conversation. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de grandes rencontres amicales ont lieu à l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, on a du temps à perdre. Et quand on perd son temps avec quelqu'un, quand on n'est pas pressé, on apprend à le découvrir, on se familiarise avec sa singularité, et finalement, on se lie à quelqu'un dans ces années d'adolescence parce qu'on a passé du temps avec la personne, quoi.
Alors, je vous propose maintenant de retrouver Claire-Lise Gaillard. Bonjour Claire-Lise.
Bonjour.
Vous êtes historienne et vous travaillez spécifiquement sur le marché de la rencontre matrimoniale en France du 19e au 20e siècle. Comment est né ce marché de la rencontre ?
Alors, c'est une histoire qui est une histoire un peu heurtée en deux temps. Il y a déjà la Révolution française, un moment un petit peu expérimental où avec la liberté de la presse naissent les premières feuilles d'annonces matrimoniales, avec cette idée qu'il faudrait sortir des privilèges matrimoniaux et permettre aux nouveaux citoyens de se rencontrer sans distinction de classe pour former le citoyen nouveau ensuite en faisant des enfants. Alors ça ne dure pas très longtemps, ça s'arrête très vite avec l'expérience révolutionnaire. Et puis au début du 19e siècle, ce sont des agents d'affaires qui se spécialisent et qui deviennent des agents matrimoniaux. Les agents d'affaires, c'est en fait des gens qui sont là pour justement rencontrer les gens que vous n'avez pas le temps de rencontrer. Donc pour tout un tas de choses, pour organiser un voyage, pour placer de l'argent, etc. Et puis pour trouver une fiancée. Alors ce marché de la rencontre, il est d'abord en fait un marché pour les hommes, surtout pour les jeunes hommes de la petite bourgeoisie qui veulent rencontrer des femmes de meilleures conditions sociales que celles qui seraient amenées à épouser dans leur cercle de sociabilité habituel.
Donc c'est un phénomène plutôt urbain.
C'est un phénomène plutôt urbain, oui, tout à fait. D'ailleurs, on vient. D'abord, c'est un phénomène plutôt parisien au début du 19e siècle. On prend le train pour aller à Paris chercher une épouse et de préférence conquérir Paris par les femmes.
Mais alors, comment très concrètement se déroulent ces rencontres arrangées Parce qu'en fait, je dis arrangées, mais elles devaient avoir l'air spontanées, ces rencontres.
Alors, oui, c'est tout à fait l'enjeu de ces rencontres-là. En fait, ce marché de la rencontre au XIXe siècle, il n'existe que parce que dans les sphères bourgeoises, ce qui prime, c'est le mariage arrangé. Donc ces rencontres, elles ne peuvent avoir lieu que comme ça. C'est-à-dire que ces hommes dont je vous parlais tout à l'heure arrivent à l'agence, l'agent matrimonial leur propose une liste de partis féminins très détaillée. On connaît les dots, bien sûr, c'est la première information, la profession du père, les titres éventuellement de noblesse et quelques informations physiques, parfois même très crues sur les infirmités où on sait si elle a des belles hanches, etc. Et ces femmes-là, elles sont inscrites à leur insu. En tout cas, pour plus de la moitié d'entre elles sont inscrites à leur insu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans leur entourage, que ce soit leur famille, leur bonne, leur boucher, en tout cas quelqu'un dans leur entourage qui allait vendre à l'agent matrimonial l'information que c'était une jeune fille à marier, qu'elle avait tant de dot, telle ou telle qualité. Et donc, le client qui arrive à l'agence, il vient acheter cet accès à une rencontre qu'il n'aurait pas pu faire dans le cercle de sociabilité qu'il avait.
Mais est-ce que ces rencontres arrangées se concluent parfois par un mariage d'amour ?
Alors oui, ce n'est pas du tout incompatible, parce que justement, comme ces rencontres elles sont orchestrées et scénarisées, l'agent matrimonial, il mobilise tout un réseau d'intermédiaires et de complices. Donc par exemple, ce réseau de complices, il est plus ou moins important selon si la jeune femme à marier est un bon parti. Par exemple, pour une vendeuse de magasin, il suffit d'envoyer le prétendant acheter une babiole, ça lui permet de voir si celle qu'on lui a promise est intéressante ou non. Pour une comtesse, l'agent matrimonial va échafauder tout un plan. Il faut dire qu'on l'a aperçu en janvier, place de la Madeleine, à tel numéro, dire qu'on est follement amoureux, etc. Le client va se faire introduire sous un prétexte fallacieux dans une soirée et la comtesse de le rencontrer comme si elle le voyait pour la première fois, ce qui est le cas, mais en tout cas en ayant l'impression que la rencontre est complètement fortuite et il va lui jouer le numéro de l'amoureux transi. Donc les mariages arrangés peuvent tout à fait être vécus par les jeunes filles comme des mariages d'amour Et en plus, il y a quand même cette idée au 19e qui est très prégnante que les mariages, les vrais mariages d'amour, les mariages où l'affection est possible, sont les mariages qui sont socialement assortis.
Merci beaucoup Claire-Lise Gaillard pour cet éclairage. Pascal Lardelier, on constate en ce moment une hausse des inscriptions en agences matrimoniales. Donc comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez que ces agences matrimoniales jouent encore un rôle?
En fait, c'est vrai qu'elles ont connu le creux de la vague il y a une vingtaine d'années avec l'arrivée des sites de rencontres, puisqu'on pensait qu'on avait la panacée. Et c'est vrai que quantitativement, les sites de rencontres ont encore quand même la part du lion sur le marché de la rencontre conjugale, sentimentale. Néanmoins, je crois qu'il y a quand même, un pourcentage non négligeable de déçus de ces sites, parce que ces sites, eh bien, nous offrent l'expérience de la sidération, de la jubilation, de la réassurance narcissique, etc., etc., de la blessure narcissique aussi, quand une rencontre qu'on pensait être belle s'avère désastreuse. Mais je crois qu'effectivement, il y a des gens qui se sont épuisés à passer beaucoup de temps sur ces sites, qui produisent des couples, etc., etc., mais qui produisent aussi des échecs et des désillusions. Et je pense qu'on se dit que revenir à une agence, c'est avoir du conseil coût humain, c'est d'être écouté par un professionnel qui va être effectivement un médiateur, comme il y en a toujours eu, et ça vient d'être dit, les marieuses dans la France de l'Ancien Régime, les notaires, etc., etc. Et donc, on va être écouté, on va être saisi dans sa personnalité, et puis on va nous proposer un éventail très, très restreint de personnes qui potentiellement peuvent vous convenir. Donc, on va opter pour la qualité contre la quantité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la qualité sur les sites, mais c'est vrai qu'effectivement, eh bien, on veut du coût humain, et puis on veut la certitude qu'en payant un petit peu cher, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, on aura quelqu'un qui, sur le papier, nous correspond, alors que les sites de rencontres ou les applis, c'est quand même une grande loterie, il faut quand même le reconnaître, même si, je le répète, ça produit des couples, c'est quand même quelque chose qui relève de la loterie à certains égards. Et puis, alors, si je peux ajouter cela, alors nous parlons de rencontres belles et idéales depuis le début de l'émission, en grande partie, de rencontres qu'on pourrait dire extatiques, je parlais d'épiphanie pour ouvrir le propos, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître, et là je vais désillusionner un petit peu le rapport à tout ça en sociologue, il faut quand même reconnaître que nous venons toujours aux rencontres avec des œillères et à travers des chicanes. Et oui, je sais, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut se méfier des déterminismes, mais vraiment, je l'ai vu dans les enquêtes que j'ai menées sur la rencontre en ligne, eh bien, on peut difficilement se défendre, effectivement, de venir à une rencontre avec des images et des imaginaires, avec des aspirations, avec un vécu, indéniablement, mais aussi avec des stéréotypes de classe. Et j'en veux quand même pour preuve, que le corps, c'est quand même toujours un corps social. Le corps, dès lors qu'on le rencontre, eh bien, il va avoir des attributs que l'on va capter, des détails. J'expliquais dans le premier ouvrage que j'ai écrit sur le sujet en 2003, Le cœur net, eh bien, j'avais un sous-titre de chapitre de la grande importance des petits détails. Et arriver à un premier rendez-vous sur Internet, comme il y en a des milliers tous les jours en temps normal, bon là on est un petit peu contraint et confiné, mais eh bien c'est toujours capter des micro-détails qui vont prendre une grande importance dans l'interprétation sociologique que l'on va en faire. Et finalement, une rencontre sur Internet, le premier rendez-vous, tel que tous les sites les mettent en scène dans leur publicité, tel que vous le mettiez sur Twitter ce matin, eh bien, comme je le disais, un homme, une femme, pour les rencontres hétérosexuelles, un homme, une femme, quatre possibilités. Quels que soient les discours, les projections, les attentes et les promesses en amont, a priori, quand on se rencontre, soit les deux se plaisent, formidable, c'est la scène du musée à Montpellier que j'évoquais tout à l'heure. Soit les deux ne se plaisent pas, et bien écoutez, on boit un café, chacun paye son écho, on se quitte bons amis. Et puis la blessure narcissique que j'évoquais, c'est quand un des deux plaît à l'autre, mais que l'autre ne lui plaît pas. Et là, effectivement, et bien, on va le signifier, on va le dire plus ou moins brutalement ou plus ou moins élégamment, je vois que je te plais, mais toi, tu ne me plais pas. Et on va donc rester bons amis. Et donc, je crois que le corps, il ne faut pas oublier ça. Pour conclure, c'est vraiment un corps qui est incarné, c'est bien le cas de le dire, Et la rencontre, si elle est sensible, eh bien, c'est aussi une rencontre qui vraiment s'inscrit dans une lecture intuitive de la part des acteurs sociaux, une lecture intuitive du corps, des détails et de mille choses que l'on va capter pour produire une image de l'autre. Et ça, ça va accompagner nécessairement la suite de la rencontre.
Charles Pépin.
Alors oui, j'entends bien et tout ça est passionnant, mais il me semble quand même que parfois, en tout cas, et c'est peut-être un peu idéal, le réel se trouve plus fort que les images sociales qu'on projette sur lui, que les attentes qu'on a. Et même si le corps, comme vous le dites très bien, est un corps social, même si ces micro-détails sont socialement signifiants, il me semble que parfois, on peut échapper à ça. Et que c'est ça la magie d'une rencontre, justement. Comme d'ailleurs quand on rencontre un tableau, par exemple, on nous a beaucoup parlé de ce tableau. Il est dans les livres d'histoire de l'art, donc on a des attentes, on se fait une idée. Mais parfois, la réalité du tableau efface, ou en tout cas balaye en partie, les représentations. Il me semble que ça peut arriver aussi dans une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale. C'est que finalement, on rencontre un réel qui surgit comme ça et qui est plus fort, en fait, que le reste. Alors voilà, c'est peut-être un peu idéal comme conception, mais c'est en tout cas ma définition de la rencontre dans mon livre. C'est que la rencontre est toujours la rencontre d'un réel qui vient effacer les représentations imaginaires. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes. Elles ont été un préalable, elles ont été une préparation. Mais parfois, dans la rencontre, il y a l'expérience d'un réel, en fait, qui est là. Et il faut que je sache m'ouvrir à ce réel. Et pour reprendre la réflexion sur la question sociale que vous avez initiée, on peut aussi dire que cette question sociale, elle vient parfois entraver les rencontres. Parce que parfois, on s'interdit de rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas, qui n'est pas socialement conforme, qui ne coche pas les cases. Et j'avoue que dans le déclencheur de mon travail, il y a eu ce constat. Autour de moi, alors moi je suis parisien et j'ai entre 40 et 50 ans, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient trop de critères sociaux et qui étaient seules, et qui dans le même moment se plaignaient de rester seuls, mais n'étaient pas capables d'avoir un rapport relâché à leurs critères. Donc voilà, la disponibilité, ça veut dire ça, au fond. C'est pour ça que c'est un rapport au monde, c'est un rapport aux autres, et c'est un rapport à soi.
On va retourner au standard où nous attend Maurice. Bonjour Maurice.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Cotonou. Quelle est la rencontre qui a changé votre vie, Maurice ?
C'est la rencontre avec... ma compagne, avec laquelle j'ai eu un enfant aujourd'hui.
Comment s'est déroulée cette rencontre ?
J'étais en 2012 à l'université d'Abou-Karabi. Je venais d'arriver fraîchement d'Abidjan.
Donc à Cotonou,
Oui, à Cotonou, oui. Et bon, j'étais dans l'amphi pour mon premier cours de sociologie. J'étais dans l'amphi. Et il y a une question. Le professeur a posé une question et puis j'ai levé mon doigt. J'ai répondu à la question et tous les yeux se sont levés vers moi. Mais c'est quel Ivoirien ça dans l'amphi ? C'est quel Ivoirien ça ? Et
que vous aviez un accent, hein, c'est ça Maurice ?
Oui, parce que j'ai un accent ivoirien, donc je suis né là, j'ai grandi là. Donc ma voisine qui était juste à côté m'a regardé, m'a dit félicitations, c'est bien. Et depuis lors, nous sommes ensemble.
Vous avez dit hein, hors antenne à notre équipe, son regard m'a foudroyé.
Oui, exactement, son regard m'a foudroyé.
Donc on peut parler de coup de foudre.
Oui, on peut parler de coup de foudre. On peut parler de coup de foudre. C'était un vrai coup de foudre. Ouais.
Et est-ce que ça a été un peu compliqué parce que vous étiez ivoirien et parce qu'elle était béninoise ?
Bien sûr, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait les préjugés. Il y avait certains préjugés sur mes origines. Au passage, je ne suis pas ivoirien, je suis aussi béninois.
Ah.
Mon père est béninois, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire, ce qui fait que j'ai eu l'accent un peu ivoirien. Et tout. Ma façon de parler, ma façon de se comporter.
Charles Pépin.
Oui, on entend bien dans ce témoignage qu'une rencontre, ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y a quelque chose, même si c'est un coup de foudre, qui est un peu troublant dans des identités, des cultures qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais c'est ça qui est beau, justement. C'est d'avoir à inventer un monde commun. C'est-à-dire, moi, je viens d'un monde, donc vous, en l'occurrence, vous êtes à la fois ivoirien et béninois, elle est autre chose. Et donc, nous ne sommes pas chacun enfoncés dans cette identité ou cette case. Nous pouvons en sortir. Et en nous rencontrant, nous allons inventer quelque chose ensemble. Ça, c'est aussi un des jolis signes de la rencontre. C'est quand on a envie d'y aller, alors qu'on n'avait pas envie d'y aller avant de rencontrer la personne. Par exemple, monsieur, vous avez eu un enfant avec cette femme. Ben, y a plein de gens, ils disent « moi, je ne veux pas d'enfant ». Il y a des femmes qui disent « voilà, moi, j'ai déjà eu 2 enfants, je ne veux pas de 3e enfant ». Des hommes « moi, je vis très bien sans enfant ». Et puis, ils rencontrent quelqu'un, et avec cette personne, ils veulent un enfant. Ça prouve bien que nous, les humains, si nous sommes seuls, nous ne savons pas ce que nous voulons, nous ne savons pas ce que nous désirons. Nous avons besoin de la rencontre des autres pour nous ouvrir à nos propres désirs. Et finalement, l'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous croyons savoir ce qui nous rendra heureux. Par exemple, nous disons « moi, je serais heureux avec une femme plus jeune et qui n'a pas d'enfant. Moi, je serais heureux avec un homme plus âgé et sécurisant. » Et en fait, souvent, on rencontre quelqu'un qui ne correspond pas et pourtant qui nous rend heureux. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter de penser qu'on sait ce qui nous rendra heureux et qu'on sait ce qu'on désire. Parce que la vérité, c'est que c'est la rencontre qui nous dira ce qui peut nous rendre heureux. Avant la rencontre, on ne le sait pas. Donc il faut sortir de chez soi, il faut s'ouvrir à la rencontre des autres. Et monsieur, dans l'amphi, vous avez levé la main, vous avez eu de l'audace, vous avez exprimé votre voix singulière avec votre accent ivoirien, et là, elle s'est dit, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est peut-être pas dans mon monde, mais avec lequel je vais inventer quelque chose.
Merci beaucoup Maurice de nous avoir appelés. Bonne journée à Cotonou. Charles Pépin, est-ce que vous croyez au coup de foudre ?
Bien sûr.
Vous racontez dans votre livre le trouble qui saisit Anna Karénine quand elle aperçoit dans une gare le prince Vronsky, dont elle ne sait rien à ce moment-là,
ouais.
Et il se passe quelque chose.
Alors je crois au coup de foudre, mais ce n'est pas un signe objectif, c'est-à-dire que ça peut se révéler illusoire évidemment. Mais je crois en ce surgissement. Pour peu qu'on soit capable de lever les yeux et de ne pas être obsédé par ce qu'on attend. Parce qu'elle ne l'attendait pas, ce prince Vronsky, et pourtant il est apparu. Je crois au coup de foudre au sens où on est foudroyé par quelque chose qui est plus fort que soi et qui s'impose à soi, qui nous attire, qui nous attrape, qui nous saisit et qui peut-être va nous révéler à nous-mêmes.
Alors, la vraie vie est rencontre, hein, c'est ce qu'affirmait le philosophe australo, non pas australo,
autrichien
et israélien, voilà, Martin Buber. Vous avez le sentiment que depuis presque un an, ce que nous vivons n'est pas la vraie vie ?
Bien sûr, nous sommes entravés dans notre vraie vie et c'est extrêmement pénible et douloureux. Une vie passée à rester chez soi, à sortir masqué, à ne pas aller dans les bars, pas dans les restaurants, pas dans les musées, pas dans les fêtes, mais à peine dans la rue, n'est pas une vraie vie. Espérons que les progrès de la science, de la médecine, que les vaccins nous permettent de retrouver la vraie vie.
Alors, est-ce qu'on peut continuer d'ici à ce que tout le monde soit vacciné,
ouais,
et à ce qu'on soit débarrassé de ce virus, à préparer le monde d'après, le monde où les rencontres sont
bien sûr
à nouveau possibles.
Bien
et
sûr.
Comment on fait pour ça ?
Alors, vous savez, le mouvement de la rencontre est un mouvement de sortie de soi, de sortie de chez soi, mais de sortie de soi. Là, on est un petit peu entravé dans notre capacité à sortir de chez nous. Nous pouvons sortir de nous-mêmes déjà, en revanche, tout en restant chez nous. C'est-à-dire s'ouvrir à d'autres penseurs, lire d'autres romanciers, voir d'autres types de films, écouter d'autres types de musique, faire la cuisine différemment, apprendre la guitare, apprendre l'espagnol à distance. Parce que vous voyez, d'ailleurs c'est ce que ma mère est en train de faire, elle a 74 ans, elle est en train d'apprendre l'espagnol pendant que le confinement l'a contraint. Eh bien, peut-être qu'elle rencontrera quelqu'un grâce à ça. Soit quelqu'un d'espagnol, soit quelqu'un qui aura appris l'espagnol comme elle, soit quelqu'un à qui elle sera heureuse de raconter qu'elle a appris l'espagnol. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui pour sortir de nos habitudes et de nos certitudes est probablement le secret des rencontres de demain.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Charles Pépin d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous, c'était un plaisir. Bonjour à tous les voisins.
Et aux voisines.
Oui, mais ça s'appelle 7 millions de voisins, je parlais.
7 milliards de voisins. Votre livre La rencontre, une philosophie est publié chez Alary Éditions. On peut aussi vous écouter chaque semaine sur Spotify dans un podcast La philosophie pratique. Merci Pascal Lardelier d'avoir été avec nous également. On attend la parution de votre livre S'aimer à l'heure de Tinder et du Covid. C'est prévu pour quand ?
Écoutez, il est en lecture chez des éditeurs parisiens, donc je veux croire que la réponse arrivera très bientôt. Et ça sera le troisième opus d'une trilogie du cœur, après Le cœur net en 2003 et Les réseaux du cœur en 2012. Voilà.
On se quitte, petit clin d'œil avec Le cœur nous anime, Ben Mazoué et Poupie.
Réjouissons-nous que le cœur encore nous anime. Et même de ces larmes qu'on éponge, il y a des histoires très belles qui se terminent, et d'autres des pourries qui se prolongent. J'entends des gens me dire, c'est normal d'être aussi paumé dans ta situation. On t'en veut pas et on le prend pas mal, mais t'es paumé, c'est une constatation. Tu prends des tas de décisions radicales, des décisions que tu tiendras jamais. Et tu vas te décevoir au final, déjà que t'arrives plus trop à t'aimer.
Mais t'étais chaud, ah ouais, t'étais beau, quand t'avais son amour collé comme un bouclier. Tu savais où t'allais, ouais, t'étais chaud, quand t'avais son amour collé, tu savais où t'allais.
Mais c'est assez, j'suis pas si perdu que ça, j'dois juste tout repenser. Donc on me reconnaît pas, et là, sur ma lancée, y'a des gens qui me lâchent pas, leur regard inquiet, j'te jure que ça me rassure pas. Mais j'étais chou, ça ouais, j'étais beau, quand j'avais son amour collé comme un bouclier. Je savais où j'allais, ouais, j'étais chaud, quand j'avais son amour collé, je pouvais tout plier. Mais je sens donc que le cœur encore nous anime, et même que ces larmes qu'on éponge, y a des histoires très belles qui se terminent, et d'autres des pourries qui se prolongent. Pour briller dans ses yeux au début, c'était facile. J'avais une chanson ou deux, je sais plus, c'était facile. Quelques citations jolies et le feu dans mon corps. Puis elle a fait le tour de moi et d'un commun accord.
T'étais chou, ça ouais, t'étais beau.
Elle m'a dit,
tu sais, non, ça y est, je vais nous oublier. Tu savais où t'allais, moi pas du tout. À rester dans ta roue, j'allais finir par m'effacer.
Réjouissons-nous que le cœur encore nous anime.
Et même de ces larmes qu'on éponge,
y'a des histoires très belles qui se terminent,
et d'autres des pourries qui se prolongent.
Réjouissons-nous que le cœur encore nous anime. Et même de ces larmes qu'on éponge, y'a des histoires très belles qui se terminent, et d'autres des pourries qui se prolongent, des pourries qui se prolongent. Car des histoires très belles j'en connais, j'en connais même certaines qu'on pas duré,
qu'on pas tant duré.
Ben Mazoué et Poupie, Le cœur nous anime. Extrait de Paradis, le dernier album de Ben Mazoué. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Juliette Brault, Elsa Olaizola, Delphine de Dianou, à la réalisation Romain Dubrac et au standard Didier Chérouse. Demain, vous retrouverez à ce micro Emmanuel Bastide pour une émission sur le défi de l'école de demain. Comment inculquer aux élèves l'esprit critique? Comment apprendre à détecter les fake news, à démonter les théories du complot, à penser par soi-même, comme le préconisait un autre philosophe, Emmanuel Kant. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Vous connaissez notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. À demain et portez-vous bien. Dans quelques secondes, le retour de l'info sur RFI.
De voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.